Clotilde Cosana Chauvin, bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de la Foire du Livre pour la sortie de votre premier PD, Versatile, paru aux éditions Castormont. Au début du livre, on découvre une montre un peu spéciale, style monde annoncé, qui mentionne les différentes étapes que va franchir votre héroïne, Célimène, au niveau d'ascension sociale. C'est une sorte de roue de la fortune. Est-ce qu'elle existe vraiment? Parce que j'ai rien trouvé.
Alors, si on s'intéresse aux documents historiques au XVIIIe siècle, il y a des montres, il y a des montres à gousset, il y a des horloges, mais pour donner l'heure, comme aujourd'hui. Donc, cette montre à gousset, cette espèce de compas de la position sociale dans la hiérarchie de la noblesse, non, elle n'existe pas, c'est une pure invention, parce qu'on cherchait des moyens économiques d'indiquer de manière claire où en est notre héroïne à chaque étape de son ascension.
Et aussi, il y a le système des chapitres, quand même, où vous expliquez à chaque fois un petit peu vers quoi on va se diriger, quand même.
Tout à fait, mais c'était en collaboration vraiment avec la dessinatrice Clotilde, parce qu'on cherchait des moyens de montrer cette progression, et donc il fallait trouver un moyen de montrer les piastres, par exemple, alors qu'elles restent en partie virtuelles, et donc
cette boussole... Des petits dessins sur les à côté, là, comme ça, qui apparaissent, qui redisparaissent, là, ouais.
Oui, je crois que dans le scénario, l'horloge à gousset, enfin la montre à gousset a été déjà écrite, pensée, et la répartition des piastres un peu moins. Donc moi, j'ai davantage fait un travail sur comment visuellement je montre ce transfert de piastres entre les personnages.
Avec les différents chapitres, on se croirait dans une sorte de jeu de loi, une sorte de monopoly. Il y a même une case prison. C'est apparu dès le départ cette conception des chapitres.
Alors, j'avais séquencé le récit de manière à avoir cette progression claire et j'aimais beaucoup l'idée de suivre un personnage dans différentes étapes. Et c'est ensuite qu'on s'est dit que ça pouvait être sympathique de faire des pleines pages pour aérer ce récit qui est assez dense, qui a des rebondissements, qui est soutenu, mais dans lequel le lecteur peut vite se sentir le souffle court. Et les chapitres, il y avait aussi, moi, mes références de romans du XVIIIe siècle avec des chapitres qui ont des titres, chapitres dans lesquels il sera parlé de... ou qui finit par... Donc l'idée a bien plu à l'éditeur et ça a permis de structurer le récit un peu plus fortement.
Pratique des pleines pages comme ça, c'est beaucoup plus difficile à concevoir et à imaginer par rapport à un texte ou carrément par rapport à votre imaginaire.
C'est vrai que ça a été une question, qu'est-ce que je décide de dessiner sur ces pages de chapitre et j'ai fait le choix que cette page de chapitre soit le début en fait du chapitre. Et souvent, il y a une bulle de parole qui initie l'action. Et c'était l'occasion aussi de faire comme l'a dit Ozana, des pauses, des respirations et des moments d'arrêt dans la lecture.
Alors, contrairement à votre titre, finalement, votre héroïne, elle n'est pas du tout versatile. Elle a un but, elle sait très bien où elle va. Incroyable quand même. On se dit, mais qui est versatile là?
Alors, j'ai beaucoup aimé au début votre première question. Vous avez mentionné la roue de la fortune. Versatile, c'était vraiment ça. C'était un titre pour dire l'instabilité, un peu comme une planche posée sur un ballon. Et au départ, le titre prenait un S, puisque comme versatile est un adjectif, ça devait qualifier les personnages. Et vous avez parfaitement raison. Célimène, c'est une acharnée. Dans sa tête, il y a une ligne droite, il y a une idée fixe. Et c'est une des choses qui va faire sa force, c'est que paradoxalement, elle va utiliser tout ce qu'il y a de mouvant, d'instable et de ce qui peut potentiellement se retourner contre elle dans ce monde où tout est mouvant, et que elle va mettre toute cette versatilité au service de son ambition qui est aussi une obsession.
Alors, pour votre couverture, il fallait quelque chose de royal, avec de belles lettres, et là vous avez contacté la maison de la calligraphie. Vous connaissiez le fondateur Serge Cortési ou sa directrice Céline Renaudy?
Alors pour être franche, c'est pas moi qui fait appel à eux, c'est mon éditeur qui m'a proposé de confier ce travail à cette maison. Et moi, ça m'allait plutôt bien parce que c'est pas mon travail en fait. Et j'étais heureuse d'avoir une belle calligraphie pour la couverture.
Et ça vous a pas inspiré éventuellement pour la suite de votre travail en tant que dessinatrice sur la continuité, je veux dire.
En fait, c'est venu à la fin, tout à la fin de la réalisation. J'avais dessiné un titre qui ressemble un peu à la calligraphie qui existe, mais qui était beaucoup plus croquis, brouillon, le pain, avec des moins beaux déliés. Et il s'est inspiré de mon croquis, je crois, oui, complètement, pour faire quelque chose de plus fini, de plus précis.
Alors, on peut passer de mendiant à reine, mais où sont les catins et les courtisanes?
Alors, les catins et les courtisanes, elles sont finalement assez présentes dans le récit et de manière perlée à chaque étape de la vie de Célimène. Il y a plusieurs formes, en fait, de prostitution informelle dans le récit. Aussi parce que au XVIIIe siècle, qui est donc notre époque de référence, les phénomènes de prostitution sont très, très variés et très nombreux. Alors, on pense à la catin, des faubourgs qui va travailler en maison close, qui va être maltraité, etc. Mais il y a aussi les courtisanes de haut vol, des maîtresses en titre qui fréquentent la meilleure noblesse. On les voit peu, en tout cas on les nomme et affichés complètement. On les nomme peu dans Versatile, et pourtant c'est aussi des armes dont Célimène joue, puisque à plusieurs reprises, sans que ce soit forcément de la prostitution tarifée, elle se sert de son corps, de son image ou du désir qu'on peut éprouver pour elle. Pour grimper les échelons qu'elle désire.
Alors, Célimène, elle amasse les piastres pour gravir les échelons avec un but ultime, c'est être reine. Mais comme elle dit, être reine, c'est une preuve, je veux des preuves, je veux être sûr de ma valeur. Finalement, cette valeur dont on parle, c'est plus que de l'argent.
Ah, c'est le drame de Célimène, c'est que elle veut s'aimer. Elle veut acquérir l'estime d'elle-même et qu'en fait, elle essaye, pour acquérir cette estime d'elle-même, d'accumuler des moyens qui ne l'amèneront jamais à cette fin parce qu'il y a une différence d'ordre entre les moyens qu'elle utilise, qui sont l'argent, une forme de reconnaissance sociale, une forme de suprématie exercée sur les autres et cet amour d'elle-même. Et c'est ce que lui dira Dorval. Il y a un drame de Célimène qui sait ce qu'elle veut, mais se trompe complètement dans la manière de l'obtenir, sans trop en dire.
Alors cette ascension fulgurante, on se dit à un certain moment, mais plus dur sera la chute, non? Et finalement, ici, c'est qu'est-ce que ça va l'amener à faire? On a l'impression d'avoir le mythe d'Icare.
Oui, toutes les figures de l'hubris, donc de la démesure et de l'orgueil, m'intéressent beaucoup. Et toutes ces figures se comprennent d'autant mieux quand elles sont pensées dans le rapport à l'autre. C'est un des grands points sur lesquels Dorval et Célimène s'opposent, c'est le rapport à l'autre. Est-ce qu'ils sont au service de l'autre ou est-ce qu'ils veulent mettre les autres à leur service? Et Icare est une très bonne référence. Toutes ces histoires d'ascension, est-ce que quand on s'approche du soleil, est-ce qu'on risque la chute? Et en même temps, c'est moi, elle me touche, Célimène. Je l'aime, c'est pas une anti-héroïne qui est antipathique.
Bon, bien.
C'est une anti-héroïne pour laquelle j'ai envie qu'on trouve.
Vive 2 ans, mais de son personnage, il n'y avait pas besoin d'avoir à l'aimer, là.
Et en fait, elle me touche parce qu'elle nous parle de quelque chose qui nous habite Clotilde et moi, qui est un désir d'envergure aussi. Et l'idée, c'est cette question de la frontière. Quand est-ce qu'on passe de l'envergure à la démesure? Quand est-ce qu'on passe d'une recherche légitime de reconnaissance à un aveuglement vers une gloire qui n'apporte finalement rien. Et je pense que c'est des questions qui j'espère toucheront les lecteurs et les lectrices, parce que ça convoque des choses très lumineuses et en même temps très obscures en nous. Le désir de faire des belles et des grandes choses et en même temps quelles sont les motivations qui derrière nous habitent. Je sais pas si tu veux rebondir.
On n'est pas vraiment chez Cendrillon avec Célimène. Quand vous le dessinez, est-ce que un personnage de Cendrillon vous inspire au contraire ou
Je cherche le lien. Ça sera du zodé. Mais Cendrillon, c'est vrai que c'est une mare. J'allais dire une souillon, mais c'est moche comme mot. Mais quelqu'un qui est rabaissé et qui va s'élever, mais un peu grâce à sa marraine, la bonne fée, mais le prince charmant. Et Célimène, elle le fait toute seule. Vraiment, elle le fait toute seule.
Et elle n'est ni belle ni gentille aussi. Elle n'est ni belle ni gentille, oui. Cendrillon, à côté, la vertu récompensée.
Hein?
Célimène, en effet, elle décide d'être elle-même son prince charmant et sa marraine bonne fée parce que... qu'ils ne seront pas là pour elle.
Oui.
Pas de Disney dans le coin, alors. Ouais. Alors, Cathy, vous avez fait l'école des beaux-arts et une école de dessin engagée à Lyon. Et... Et votre sœur, Osana, donc vous avez fait donc Normal Sup à Lyon. On peut dire que vous êtes complémentaires, non?
Oui, pour l'écriture d'une bande dessinée, complètement. À Osana l'écriture, à moi le dessin, c'est les deux bons ingrédients pour une BD. C'est vrai que c'est une complémentarité qui n'est pas non plus hermétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le scénario fini, fixé, complètement d'un côté, et un autre.
Oui, dessiner ça.
C'est ça. Et moi, je pensais que la collaboration serait plus linéaire, en quelque sorte, plus chronologique, alors qu'en fait, les dessins de Clotilde m'ont inspiré aussi, ont changé le regard que j'avais sur mes propres personnages. Ces questions ont influencé le cours du récit, ces suggestions l'ont nourri. Et donc, il y a une complémentarité à la fois des tempéraments, des talents et des qualités techniques qui a vraiment été très agréable à vivre, je trouve, sur cet album.
Vous avez fait des dessins qui ont anticipé éventuellement le récit?
Je ne crois pas que tu aies dessiné des personnages qui n'existaient pas encore. Mais par contre, je me souviens que j'ai retrouvé dans mes mails récemment des croquis que Clotilde m'envoie, des premières ébauches pour le personnage de Célimène, et je lui réponds: étonnant, je l'imaginais blonde. Aujourd'hui, pour moi, imaginer Célimène blonde, c'est complètement impossible. La brunité, je sais pas ce qu'il faut dire, le caractère brun de Célimène, c'est une grande partie de son personnage. Et en fait, dès que Clotilde les incarne, ces personnages, pour moi, ils se fixent. Alors que jusque-là, je leur donne des traits psychologiques forts, mais finalement, visuellement, je me rends compte que je suis assez pauvre dans l'image que je m'en fais.
Est-ce qu'il y a des facettes de vous, l'une comme l'autre, qui sont empruntées et que vous avez utilisées pour créer Célimène?
Oui, 200% oui. Beaucoup, beaucoup de choses de nous qui sont dans Célimène. Et donc, je dirais détermination, ambition, et presque, je veux dire, c'est pas très forcément valorisant, mais acharnement. Cette idée de vouloir quelque chose et de mettre toutes ses forces au service de cette chose par envie d'y arriver. J'allais dire le côté chiffonnière aussi. Étonnamment, on a
il y aura de monter là.
J'allais dire même on est des filles qui avons pas mal récupéré des choses dans des boîtes à voisins. C'est pour ça qu'elle est chiffonnière au début, c'est parce que ça me parlait, c'est de récupérer des choses dans la rue.
Moyen d'avoir un stade encore plus bas que celui de la Mendiante, comme ça. Ça, vous l'avez, on l'a passé directement au second, quoi.
C'est ça, parce que, en fait, Célimène a une mère, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est un personnage important, en tout cas, qui dans la jeunesse de l'histoire était importante. Une mère qui a un passé, etc. Et en fait, sa force, Célimène ne l'attire pas que d'elle-même. Elle l'attire aussi de quelqu'un qui lui a offert un début de statut. Et donc, oui, elle est chiffonnière, c'est-à-dire qu'elle travaille, au rang le plus bas de l'échelle des travailleurs, mais elle ne mendie pas. Et pour moi, c'était assez important d'avoir cette héroïne qui ne partait pas de zéro, parce que en étant mendiant, c'est comme si dans le monde que j'avais imaginé, c'est comme si on n'avait pas soi-même dans le cœur les moyens. Partir de 1, c'est possible. Partir de 0, il y avait quelque chose de moins convaincant pour moi.
Oui.
Quand on lit vos retrouvailles, on a l'impression d'être en pays de connaissance, que ça soit le marquis de Berny, le princesse de Chartres, même le tableau de la bergère avec son agneau, les piastres, et finalement tout ça sort de votre imaginaire. Il y a quand même des figures qui sont réelles, qui vous ont inspiré. Alors, tant au niveau de l'écrit qu'au niveau du dessin, bien sûr.
Cherche. Ouais, bah alors, vas-y, le temps que tu cherches. Pour répondre sur la question des noms propres, on est à 100% sur du recyclage, pour le coup.
C'est bien dit.
J'ai beaucoup lu, et j'ai beaucoup aimé la littérature du 18e siècle, et ça m'a plu de proposer pour mes personnages des noms, soit de personnes réelles, historiques, ayant existé au 18e siècle. C'est le cas, par exemple, de Berny, avec un abbé de Berny, ambassadeur à Venise, qui a un moment le compagnon de voyage de Casanova. Ou bien de la fiction, tout simplement. Donc Nérestan, Dorval, Lindor, Madame de Chartres et Célimène la première, ce sont des personnages qui tirent leur nom de personnages de fiction et principalement du théâtre du XVIIIe siècle.
Mais c'est vrai que à les entendre, on se dit, c'est vrai que on va voir sur internet, hein, mais c'est qui, il me semble déjà avoir rencontré ces noms-là, quoi. C'est comme le tableau de la bergère là.
Le tableau de la bergère, pour moi, c'était une représentation, je sais pas, que j'avais en tête. Je saurais pas dire d'où une œuvre précise, mais mis de l'ingéniosité.
Parce que là aussi, on a l'impression qu'on connaît ce tableau. Hein,
c'est le côté champêtre et d'Illy. Ouais. Ça vient aussi peut-être des comptines d'enfance.
Le chapeau, c'est...
Oui, le chapeau, les fleurs au corsage. Et puis ça contrastait bien avec le personnage de Célimène, qui n'était pas du tout une bergère ingénue.
Alors, Ozana, vous êtes donc une spécialiste du 18e, et avec Versatine, on a en plein marivaudage. Célimène aime Dorval, mais elle ne veut pas lui avouer, et en même temps, se l'avouer. J'avais retenu certaines répliques. Dès lors qu'on s'attache à quelqu'un, on se met à tout attendre de lui, avoir besoin de l'autre pour se sentir complet. Il faut vivre comme un dieu et non comme un esclave. C'est très beau et en même temps, ça devient de plus en plus rare, non?
Cette manière de parler, vous voulez dire? C'est la langue du 18e est quelque chose d'assez incroyable. On dit souvent que c'est un moment d'apogée de la langue française. C'est une société qui cultive la politesse et en même temps c'est une société du persiflage. C'est-à-dire que on doit cultiver à la fois l'art de bien dire les choses avec le plus d'élégance, de sobriété possible, et en même temps c'est le siècle des coups bas, des langues de pute, pour le dire avec nos mots du 21e, qui sont peut-être un peu moins élégants. Et moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup, beaucoup d'offrir au lecteur, à la lectrice d'aujourd'hui, un échantillon de cette langue qui m'a tellement parlé.
Et les duels sont magnifiques, quand même.
Les duels sont magnifiques. Dans le duel, je ne dirais pas ouf. Et souvent, certains passages sont émaillés de citations, en fait, que j'ai volées, sans leur permission, à des auteurs classiques. Donc, il y a des petits moments où je cite tel quel des petits morceaux de texte et d'autres moments où j'essaye tout simplement de les pasticher. Mais oui, la joute verbale a un vrai rôle.
Vous êtes des nostalgiques toutes les deux?
Non, je dirais non.
Pareil, ouais, je dirais pas du tout. Un peu comme quand Célimène dit l'avarice, c'est un défaut de riche. Je peux pas me l'offrir. Pareil, nostalgique. Non, c'est pas du tout quelque chose qui nous caractérise. On aime rêver, on aime se replonger dans des univers, mais regret, et pas le regret ou la tristesse que ce soit fini ou que ce soit passé.
Une dernière question. Vous croyez en l'amitié homme-femme ou plutôt, comme vous l'écrivez, qui dit « ami, l'orne ton lit » ?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, je dois dire. Et je pense qu'on ne peut y répondre que d'un point de vue strictement personnel.
Mais elles vous sont destinées, hein, ces questions. C'est rien pour vous. Hein.
Je pense qu'il existe une amitié entre hommes et femmes. Et que, par contre, je ne pense pas qu'elle ne puisse jamais verser dans l'amour. Pour moi, si les personnes sont hétérosexuelles, dans le cadre d'une amitié homme-femme, si l'amitié devient de plus en plus proche et de plus en plus intime, il y a un moment où... En tout cas, moi, quelqu'un que je trouve à la fois intelligent, beau, gentil, avec qui j'ai envie de passer du temps, au bout d'un moment, si c'est mon ami, je vais avoir du désir pour lui. À partir du moment où le désir se mêle à l'amitié, je pense que c'est... Ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut appeler de l'amour. Donc,
Belle déclaration.
Oui, mais avant, je ne sais pas si je vais bien le formuler, mais avec une amie, je partage le secret du cœur, l'intimité des sentiments. Et en effet, je le fais plus avec des amies filles qu'avec des amies garçons, où j'aurais peut-être plus de pudeur. Et donc, les amitiés entre filles sont plus fortes et plus profondes que celles que j'ai avec mes amis hommes. Enfin, pas plus belles, mais plus intimes.
Clotilde Ozana, un grand merci. Donc, on rappelle Versatile qui sort le
26 mars.
Voilà, aux éditions Casterman. Merci à vous.
Merci beaucoup.